Bonjour, ici Philippe Vaillancourt. Soyez les bienvenus à cette nouvelle émission à l'antenne de Radio Ville-Marie. On est le 24 décembre, la période des fêtes nous incite à consommer, parfois même jusqu'à brûler notre porte-monnaie, et même parfois jusqu'à nous brûler nous-mêmes. Benoît Duguay est un spécialiste de la consommation. Il est chroniqueur hebdomadaire sur les ondes de Radio Ville-Marie dans l'émission Rythme du matin avec Michel Gailloux. Il est ce matin l'invité de Jean Carrette et il nous invite à une consommation réfléchie.
Monsieur Duguay, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Carré.
Alors, pour cet entretien, j'ai pensé que c'était la période de Noël.
Ben, bien sûr.
Donc, je me suis dit, on va évidemment parler de consommation, mais je voulais pas en parler comme on en parle d'habitude. Je voulais avoir un regard original. Et vous avez eu la bonne idée de publier chez Libère un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui s'appelle « Consommation et nouvelles technologies au monde de l'hyper ». Alors, on va expliquer ce que c'est que l'hyper tantôt.
On va tenter.
Alors d'abord, vous êtes professeur à l'UQAM.
Oui, à l'École des sciences de la gestion.
Voilà, et vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle le marketing en franglais.
Oui, voilà. Je déteste les étiquettes, mais je m'occupe beaucoup de marketing. J'ai fait ça toute ma vie dans le secteur privé. Je m'occupe évidemment beaucoup de consommation maintenant, des technologies en particulier. Ce livre est le troisième d'une trilogie, hein. Il y a eu Consommation et image de soi en 2005, Consommation et luxe en 2007 et là Consommation et nouvelles technologies en 2009.
OK. on peut pas dire que vous êtes pas tombé dans la soupe de la consommation, c'est le moins qu'on puisse dire, mais
ma thèse de doctorat portait sur la consommation.
Oui, c'est ça. Mais disons que vous déployez un regard perspicace et intelligent, alors que souvent la consommation, les gens savent pas très bien ce que c'est de la pub, c'est les magasins, il y a des images un peu naïves comme ça. Hein?
Ah ben vous savez, la plupart des spécialistes, enfin il y a très peu de spécialistes en consommation. Il y a des spécialistes en marketing qui connaissent tous les produits. Et il y a des spécialistes aussi, peut-être qu'on peut lier un peu au marketing, mais qui connaissent le consommateur. Hein? Et on a tendance à traiter ces deux choses-là séparément. D'un côté, les gens qui achètent, de l'autre côté, ceux qu'ils achètent. Et ça, c'est un tort. Voilà. On ne peut pas comprendre la consommation à moins de mettre ces deux éléments-là ensemble. Et c'est ce que je fais.
OK. C'est une relation, en fait. Hein?
En fait, oui, c'est ça. C'est une relation très intime, la consommation. La consommation, ça fait partie de l'individu.
Alors, on va donc passer cette heure à essayer de comprendre ce phénomène, notamment au moment où à Noël, il coule du sirop et de la musique de Noël un peu partout, y compris à Radio Ville-Marie, dont vous êtes un des collaborateurs. Vous parlez, qu'est-ce que c'est la société de consommation? On dit ça toujours. Moi, je vais vous faire une provocation. J'ai l'impression que c'est surtout une société de production d'abord, parce que sinon, s'il y avait rien dans les étalages, on pourrait pas consommer.
Mais vous avez raison. Nous ne pourrions pas avoir une société de consommation ou en fait une société d'hyperconsommation maintenant si nous n'avions pas d'abord une société de production. Maintenant, si on veut bien comprendre ce qu'est une société de consommation, que je ne condamne pas au fait. Je vais vous expliquer pourquoi dans un moment.
Oui.
La société de consommation, les gens ont toujours consommé, vous savez. Là.
Oui.
Écoutez, il y a 2000 ans, les gens consommaient. Okay, il fallait bien qu'ils se logent, qu'ils se vêtent et se vêtissent
qu'ils mangent. Il y a toujours eu des échanges.
Ah ben voilà, il faut. Et je commence ce livre-là en parlant justement de l'homme des cavernes.
Oui, absolument.
Bon, voilà, et qui lui-même consommait.
J'ai trop de bisons, est-ce que tu pourrais me passer
un petit peu d'élan? Ça va faire du changement au menu.
OK.
Mais la société de consommation telle qu'on la définit aujourd'hui, ça a commencé au plus tôt après la Seconde Guerre mondiale.
OK.
Je la situe toujours au début des années 50, le temps que la guerre finisse en 45, on se retourne de bord, puis disons que dans les années 50, c'est là où on situe les débuts de la société de consommation. Et c'était parfaitement normal que cette société voie le jour. Imaginez-vous, là, hein? On a subi la guerre de 14-18. Quand ça a fini, on a dit, c'est terminé, on va pouvoir souffler un peu. Là, il nous tombe sur le paletot la crise
de
29 et la récession de 10 ans qui s'ensuit. Les gens sont épuisés. Et là, en 39, quand on commence à s'en sortir...
Alors, comment?
Et redale la Seconde Guerre mondiale. Et là, jusqu'en 1945, c'est les privations, c'est les misères, c'est les atrocités. on peut tous entendre que les gens, rendus en 1945, ils en avaient ras la marmite, là. Uh-huh. Ils en pouvaient plus. Hein? Alors, c'est parfaitement normal, parce que, regardez, la crise des années 30 avait créé beaucoup de pauvreté. La guerre, si on peut dire, le seul côté positif de la guerre, pas que la guerre a des aspects positifs, mais quand même du point de vue économique, ce que ça a fait travailler les gens. Mm-hmm. Ça a mis fin à la pauvreté.
Au chômage.
Ça. Donc c'est un côté le seul côté positif de la guerre, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Hein? Et là, donc les gens avaient plus d'argent, ils avaient un emploi, les usines d'armement. Se sont coûtés. Quand on a appris à fabriquer des chars d'assaut en série, là, on s'était inspiré de Ford et puis de Olds qui avaient déjà parti la production en série pour l'automobile. Là, au lieu de produire des automobiles, on s'est mis à produire des chars d'assaut, des avions, etc., etc. Mais là, on a rapidement refait la conversion, hein. Donc, c'est vous qui avez raison. Là, fallait faire ça prend de la production pour avoir une société de consommation.
C'est ça.
Hein?
C'est ça.
Et là, on s'est mis à produire quoi? Ben, on s'est mis à produire des réfrigérateurs, des automobiles, bien sûr. Mais pour les automobiles, ben là, ça prenait des autoroutes. Alors, il y a eu un développement autoroutier incroyable dont je parle dans mon second livre, Consommation et Luxe, je crois. C'est là-dedans que j'en parle. Où on a développé un réseau autoroutier phénoménal aux États-Unis. Puis on a mis des autos dessus.
C'est ça.
Et pourquoi on en avait besoin? Ben, parce que les gens, ils disaient, ben oui, mais moi, les bidonvilles dans la ville centre, là, j'en veux plus, là. J'ai un peu plus d'argent. Je m'achète une petite maison en banlieue, je vais avoir ma voiture, puis je vais pouvoir me rendre rapidement au travail. C'est comme ça que ça a démarré la société de consommation, et c'est très bien ainsi.
En même temps que la modernité, on peut dire.
Oui, dans un certain sens, voilà.
OK. Okay. Alors, oui. on va revenir à la guerre, si vous voulez bien, parce
bien
que
sûr.
Ce que ça fait, la guerre, bon, ça détruit beaucoup de monde, et c'est une catastrophe, on le sait, de plus en plus, mais la guerre, ça permet à l'être humain de développer une capacité d'inventivité extraordinaire, je veux dire, la guerre, c'est très propice à faire venir au monde, si j'ose dire, à faire apparaître les nouvelles technologies. Alors, on revient dans votre livre.
Ah bien oui, hein? Bien sûr.
Et
en fait, oui, la guerre est en quelque sorte un aiguillon. Hein, parce que lorsqu'on est pris là,
ça accélère. Hein?
L'adrénaline et puis là les chercheurs pensent plus rapidement, peut-être sous pression, on produit toujours mieux. Hein? Les bouquins que vous lisez, que nous écrivons, hein, on va prendre 2 ans, les recherches, on commence tranquillement. Mais là à mesure que l'échéance approche, l'adrénaline monte. Okay. Finalement le bouquin il s'écrit tout dans les 4 derniers mois.
Oui. La guerre c'est la compétition sous d'autres costumes.
Voilà.
Peut dire, hein?
Mais il y a un autre effet à la guerre par contre. Okay? C'est que le développement des nouvelles technologies est intimement lié au financement de ces technologies.
Oui.
Et c'est ce dont je parle dans mon livre. Et les crédits à la guerre, on n'y regarde plus. C'est illimité. Mmh. C'est pour ça que dans les périodes de conflit, il y a des tonnes de nouvelles technologies qui apparaissent parce que le gouvernement ne regarde plus à la dépense.
C'est ça.
T'as besoin d'un milliard pour ça, très bien, le voici.
C'est
t'as...
comme ça qu'on s'endette, d'ailleurs.
Voilà.
Collectivement,
voilà.
Ça soit épouvantable.
Voilà.
Bon.
Et la guerre a eu cet effet-là, effectivement. La plupart des technologies que nous avons entre les mains aujourd'hui sont nés pendant la guerre. L'ordinateur est né pendant la guerre. Donc, toutes les puces sont nés là.
C'est ça.
Et si on a tous ces petits appareils-là, notre téléphone cellulaire, ben, c'est un lointain descendant du walkie-talkie qu'on utilisait pendant la guerre, des radios portatives qu'on utilisait pour
c'est
se
ça.
Battre.
Ça a développé ce qu'on appelle les nouvelles technologies qui sont pas si nouvelles que ça, d'ailleurs, qui se renouvellent depuis quelques années, qu'on appelle d'information et de communication. Parce que finalement, dans le monde, ce qui est maintenant important pour le pouvoir, pour ce qu'on appelle le progrès, le développement, c'est justement l'information et la communication.
Oui, et même l'Internet. L'Internet ne vient pas de la dernière guerre mondiale, mais il vient d'un autre conflit qu'on a appelé la guerre froide.
Uh-huh.
Alors, c'était pendant cette guerre froide entre le bloc soviétique et l'Occident, si on peut dire, où là, les Américains ont mis sur pied le réseau ARPANET.
C'est ça.
OK, qui s'inscrivait dans une lutte non armé, là, okay, où on faisait de la surenchère, où on vivait constamment sous un parapluie de bombes nucléaires, où on risquait l'anéantissement à chaque seconde.
Oui, tout à fait.
Mais c'est là-dessus, c'est le réseau ARPANET qui a évolué dans l'Internet moderne qu'on connaît aujourd'hui.
Ok, je me suis toujours demandé, d'ailleurs c'est une curiosité, comment ça se fait que les militaires avaient ouvert leur dossier comme ça, parce que d'habitude, ils gardent leurs affaires, leurs découvertes. Comment ça se fait que ça a pu sortir du monde militaire pour être maintenant à la disposition de tout un chacun?
Ben, c'est que, et là, vous m'excuserez, je ne peux pas vous préciser avec précision, vous la retrouverez dans mon bouquin, là, l'année exacte où ça s'est passé, mais
c'est que
l'ARPANET était effectivement un réseau militaire. L'Internet, à ses débuts, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, là. Ça reliait pas des milliards de personnes. Hein, ça reliait quelques grands centres militaires tout d'abord, des universités ensuite, et ensuite seulement ça a été ouvert au monde entier. Hein, et c'est comme ça, je veux dire, c'est quand les militaires ont été, bon, nous, on n'en a plus besoin, on a d'autres réseaux maintenant.
Ah, c'est ça.
Celui-là, on n'en a plus besoin.
OK, on reconvertit dans le civil, comme on dit. Mais c'est surtout que un certain nombre de leaders économiques ont vu là une occasion de faire beaucoup d'argent. Normalement, non. La communication, l'information, c'est de moins en moins faire comme le père de Pelado. On va prendre cette exemple-là, ici, au Québec. Oui. Le père de Pelado, c'était de développer une petite imprimerie, puis de la publicité, puis de vendre du papier avec des informations dessus.
Oui, mais
son fils, c'est Vidéotron, quoi.
Voilà. Et l'Internet, justement, ça a révolutionné, par exemple, la publicité, là. Hein, en fait, à mon sens, et j'ai inscrit ça sur Twitter ce matin, là. Twitter/Béduguay, si les gens veulent aller me voir.
Oui, oui. Twitter, ça veut dire qu'il gazouille, hein, là-dessus.
Gazouille comme un petit oiseau. Voilà. La publicité, vous savez, ce qu'on utilise avec Google, des recherches Google, tout ça, là, c'est 11 milliards de dollars, ça, aux États-Unis.
Okay.
C'est énorme. OK, alors on va, ça affecte les revenus des médias, bien sûr, tant écrits qu'électroniques, parce que là ça se dirige tout sur Internet. Vous avez de la pub sur Internet maintenant. Par exemple, vous allez sur la BBC, vous voulez regarder une entrevue avec tel chef d'État, ben avant de voir l'entrevue, on va vous passer une pub par exemple de Mercedes ou de Volvo ou quoi.
C'est un peu agaçant, d'ailleurs, avec la petite croix dans le coin qu'il faut toujours pour fermer.
Mais vous ne pouvez pas. On a fait la technologie de telle sorte, vous ne pouvez ni accélérer la pub, ni l'arrêter.
Uh-huh.
Si vous voulez voir l'entrevue, vous devez la tolérer.
C'est ça.
C'est ce que font la plupart des gens, parce que c'est moins invasif qu'une pub télé. Ça ne dure pas une minute, hein, et c'est beaucoup moins invasif, et souvent, c'est mieux fait un peu. Je trouve que les pubs qu'on retrouve sur Internet sont peut-être un peu moins débiles que certaines pubs qu'on voit à la télé.
À part que, tout à fait par hasard, hier, j'ai été entraîné dans Internet par une marque de voiture que je ne nommerai pas. Puis là, je regardais là-dedans cet univers de voitures de luxe. C'était merveilleux, un vrai conte de Noël. Mais avant, il y avait eu une pub d'une marque concurrente.
Ah ben oui!
C'est quand même extraordinaire!
Ah ben oui, mais c'est comme ça! C'est un système de libre entreprise, c'est ça?
Alors, Benoît Duguay, on a planté le décor maintenant et on va prendre, si vous voulez bien, une petite pause musicale avec L'ivrogne et le pénitent du cher Yves Lambert. Alors, pour cet entretien de la période de Noël, j'ai eu l'idée d'inviter mon ex-collègue de l'UQAM, Monsieur Benoît Duguay. C'est moi, Alex, c'est pas vous, hein, bien entendu.
Non, moi, je suis courant, là.
qui vient de publier un livre, parmi d'autres, d'ailleurs, qui s'appelle « Consommation et nouvelles technologies ». Et tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on a donc, si j'ose dire, planté le décor avec les phénomènes de consommation. Mais j'aimerais qu'on parle maintenant du consommateur. Puis, j'avais envie de vous dire, je me suis intéressé beaucoup au problème de toxicomanie, et pour les toxicomanes, le mot important, c'est consommer des produits. Alors ça, c'est fort quand même. Autrement dit, ma question en arrière de tout ça, c'est est-ce que la consommation, ça détruit pas le consommateur, des fois, enfin dans ses excès, bien entendu.
Ah, mais c'est exactement ça que ça fait. Mmh, hein? D'ailleurs, le titre de mon second bouquin, Consommation et luxe, la voie de l'excès et de l'illusion en filigrane, en sous-titre, quoi. Donc, vous avez raison. La consommation ne détruit pas. Mais la consommation à l'excès peut effectivement détruire. Pourquoi elle peut détruire? Ben, premièrement, si on n'y prend pas garde, hein, parce qu'on consomme, vous savez, pour deux grandes raisons. La première raison, si on consomme pour satisfaire son image, pour construire et maintenir son image.
Okay.
La deuxième grande raison, c'est pour se faire plaisir. Dans les deux cas, ça peut conduire à des excès. On veut trop se faire plaisir, on consomme trop, ben ça nous conduit à un endettement démesuré, hein, qui est exactement, je vous le signale, l'élément le plus important de la crise qu'on vit en ce moment.
Oui, c'est ça.
Parce que la crise qu'on vit encore aujourd'hui, elle a démarré en 2007, l'été 2007, par un surendettement aux États-Unis.
C'est ça.
Voilà, donc vous voyez que c'est grave.
Un surendettement qui recommence d'ailleurs. On voit en ce moment les gens qui se précipitent sur des hypothèques pas chères et puis qui prennent du 40 ans. Puis quand les hypothèques vont être à 5, 6, 7, 8% et c'est monté jusqu'à 20, faut pas l'oublier, dans les années 80, ben là, ils vont mettre les clés à leur banquier, quoi.
Je dis, nous n'avons rien compris de la crise.
Et c'est dommage.
Et on a que regarder la spéculation qui se déchaîne à la bourse encore aujourd'hui et on voit qu'on n'a rien compris. Et ça va nous refrapper en plein visage dans un avenir pas trop lointain. Revenons à la consommation.
Oui, et aux consommateurs.
Et aux consommateurs. L'autre aspect, l'image de soi, ben vous savez, si on se fie uniquement à la consommation pour améliorer notre image, hein, premièrement, il y a des gens donc qui ont une faible estime de soi et qui font une forme de compensation. Hein, pour eux, la consommation devient excessivement importante. Et ça, c'est pas une bonne chose. Hein, parce que ça devient une forme de compensation, dans le fond. C'est un phénomène psychologique.
Ils sont pas capables d'avoir une personnalité assez forte, donc ils se disent, je vais m'acheter une Mercedes, j'aurai l'air de l'homme de la situation.
Voilà. Je suis un fourrier, mais je vais avoir les apparences de quelqu'un de bien.
Okay.
Voilà. Alors, mais ça, c'est déplorable.
C'est de la valeur ajoutée, comme on dit.
Si on veut.
Artificiellement, hein, bien entendu.
Si on se fie uniquement à notre dernier vêtement, à un accessoire mode, à une voiture, à je ne sais quoi, pour améliorer notre image, ben ça fait une image bien creuse. On n'a pas de profondeur. Hein? Donc, à ce moment-là, dans tous les cas qu'on cite ici, ben c'est quand c'est trop l'endettement ou quand c'est trop axé sur le paraître, ben c'est la consommation qui nous consomme. Ce n'est pas nous qui consommons, mais c'est la consommation qui nous consomme. Je reviens au parallèle que vous avez fait de la drogue. Ben, c'est très analogue parce que ceux qui consomment de la drogue, c'est la drogue qui finit par les consommer complètement et les conduire jusqu'à la déchéance.
OK. Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait contrôler, mais qui paraît incontrôlable, finalement.
En fait, moi, je prêche, comme je vous dis, je suis pas ici pour être moralisateur, pas ici pour dire aux gens « ne consommez pas », hein, mais je dis aux gens « consommez donc de façon réfléchie ». Réfléchie, ça veut dire, si vous en avez pas vraiment besoin, hein, pourquoi vous changez de modèle? C'est pas parce qu'il y a eu un modèle de iPhone en 2008, un modèle de iPhone en 2009, puis il y en aura un en 2010, qu'à chaque année, il faut changer. Hein, tant que vous faites ce que vous voulez avec l'appareil que vous avez, ben pourquoi vous le changez? C'est inutile.
C'est ça.
Et surtout et avant tout, si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour le payer sans vous endetter, ben pourquoi vous l'achetez?
Mais parce que nous payons la taxe et puis on vous donne 36 mois et puis vous paierez pas avant 2020. La vie est belle.
Ah oui, mais voilà, mais c'est un piège, vous savez. Parce qu'il y a des gens maintenant qui budgétisent en fonction, bon, je gagne, par exemple, 2 000 $ net par mois. Disons. C'est beaucoup, là. 2 000 $ net par mois. Et bon, là, voilà, j'ai acheté une voiture, moins 500. Il me reste 1 500. J'ai l'hypothèque de la maison, 1 000. Alors, il me reste 500. J'achète des meubles, 300. Il me reste 200. Et ils y vont comme ça. Et jusqu'au moment où ils disent, ben là, j'arrive à zéro, maintenant, j'ai plus de latitude. Mais par contre, je peux peut-être étirer en allant sur mes cartes de crédit, puis payer le minimum. Et c'est ça un piège, là. Et c'est là-dedans les gens se font prendre. Et comme vous avez dit tantôt, ben, à un moment donné, ils sont plus capables de rembourser. Et là, c'est la crise.
Ben, au niveau de, j'allais dire, de l'économie globale, il y a des gens qui manipulent d'autres gens là-dedans. C'est dangereux de faire consommer des gens de façon excessive. Pour l'économie en général, on vient de le voir avec la crise, c'est très dangereux.
Ben, la consommation n'est pas la solution à la crise.
C'est
moi,
ça.
Quand j'entends des
c'est
économistes
ça, hein.
depuis 2008 dire « retournez consommer,
renonce.
Ça va nous faire sortir de crise. » Mais je leur dis, mais êtes-vous fou?
Oui, oui,
êtes-vous c'est... complètement malade?
Ah, ben
c'est ça qui nous a conduit à la crise. Et nos économies occidentales, particulièrement, la nôtre également, là, ne nous le cachons pas, mais celle des États-Unis encore plus, sont beaucoup trop dépendantes de la consommation intérieure.
Mmh.
Ça n'a aucun sens.
Mmh.
Okay? Et consommation alimentée par la dette. Alors ça, c'est encore pire.
OK. Consommation au lieu, par exemple, d'investissement, tout simplement.
Voilà, au lieu d'investissement.
C'est okay? ça.
Mais moi, j'oppose à ça, par exemple, si on prend CAE Électronique qui fabrique des simulateurs de vol, qui vendent à des entreprises étrangères et locales aussi. Si on prend Bombardier qui vend des trains à l'étranger, qui vend des avions à l'étranger. Ça rend de la richesse au pays.
Okay? Oui, oui.
Ceux qui consomment à l'intérieur, ben ça redistribue l'argent un peu, ben ils font circuler l'argent, mais il n'y a pas d'argent frais qui rentre dans le pays avec ça, là.
C'est ça, il n'y a pas de richesse réelle.
Non, il n'y a pas de richesse réelle.
C'est ça.
Non,
okay.
Ça redistribue en certains sens, ça remet, ben ça enrichit certaines personnes surtout.
Alors, par rapport aux consommateurs, vous insistez beaucoup, vous faites un chapitre là-dessus qui est assez intéressant, sur non pas les besoins, mais les attentes. Alors, c'est quoi la différence?
Grosse question. C'est parce que les besoins tels qu'on les a enseignés et tels qu'on les enseigne encore en marketing, hein, si vous ne me croyez pas, allez chercher le livre de marketing le plus récent et on va vous enseigner que les besoins sont innés.
Ah, c'est ça.
On ne fait qu'y répondre en marketing.
C'est dans la nature.
C'est de la fumisterie.
OK.
C'est complètement faux, cette histoire-là.
C'est des constructions, quoi.
Ben voilà.
En fait, ouais.
Et ce qu'on a fait pour se donner une certaine légitimité, on a dit qu'on s'est inspiré de Maslow.
Ah, le fameux okay? monsieur de la pyramide.
Ou le monsieur de la pyramide. Oui, mais sauf que si vous donnez la peine d'aller lire l'ouvrage de Maslow, comme vous l'avez sans doute fait,
parce que je vous vois
hocher de la tête, mais monsieur Maslow, il a jamais dit ça.
C'est ça.
Il a jamais dit que les besoins étaient innés, et il a surtout pas dit qu'il fallait consommer, qu'on avait besoin de notre... En fait, monsieur Maslow, ce qu'il a dit, c'est au contraire, l'être humain désire toujours quelque chose. Hein?
Uh-huh.
Il n'est jamais satisfait, il veut toujours quelque chose de plus. Alors, à partir de là, c'est pas très difficile de lui faire désirer une nouvelle voiture, une nouvelle iPod, un nouveau manteau de fourrure.
Il est jamais content, comme on
voilà.
dit, c'est ça, il est jamais satisfait.
C'est un éternel insatisfait, il veut toujours quelque chose.
Okay. Parmi ses attentes, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est, je résumerai en deux fois, parce que vous parlez d'attentes, il y en a au moins une quinzaine.
Il y en a 10, c'est ce que j'appelle l'anneau des attentes, il y en a 10 catégories.
Oui, c'est très intéressant. Mais si on fait court, mais sur l'essentiel... je dirais volonté de puissance. Est-ce que j'ai raison de dire ça? On veut du pouvoir, on veut, y compris au niveau de l'apparence, là. Hein? On veut des portières qui claquent dans nos limousines, on veut...
Non pas puissance au sens puissance d'un moteur, qui serait une attente fonctionnelle, mais également une attente imaginaire ou symbolique.
Fantasmatique.
Voilà, parce que j'ai de la puissance. Alors, mais dans le fond, la recherche de ça, c'est toujours une certaine recherche de statut qui est une forme de pouvoir.
C'est ça.
Hein?
C'est ça
que vous voulez dire,
je pense. Oui.
Ben, mais il y a beaucoup de ça dans la consommation.
C'est ça.
Parce que quand on cherche à acquérir un statut dans la consommation, et donc on cherche à acquérir un certain contrôle, une certaine sur notre environnement, sur nos proches, dans nos milieux, dans notre milieu de travail. Hein, celui qui se promène avec un stylo d'une grande marque piqué dans sa poche de chemise, c'est pas pour écrire, ça, là. C'est la raison d'être du crayon, ce n'est pas une raison fonctionnelle. Uh-huh. Je veux écrire, c'est pour dire, regardez, j'ai pu me permettre un crayon qui vaut 2 000 $.
C'est ça.
Je suis donc une personne importante.
C'est ça. J'ai les moyens.
Voilà.
C'est quelle expression bizarre.
Hein. Exactement.
J'ai les moyens.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Et si on achète un téléphone cellulaire, pour revenir à la technologie, un téléphone cellulaire incrusté de diamants, à $5,000, parce qu'il en existe, figurez-vous.
Ah bon.
Ah ben là, à ce moment-là, c'est également, c'est pas pour téléphoner ce téléphone-là, non, certainement
non.
pas.
Non, non, hein? C'est pour faire briller les diamants, en fait.
Voilà.
L'autre mot, à part le mot puissance, j'ai été beaucoup intéressé par ce que vous appelez les attentes temporelles, c'est-à-dire la vitesse.
Ah oui,
hein,
oui.
Pourquoi, vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi on achète le modèle 2009 et même 2010 avant que 2010 ait sonné? C'est parce que ça va plus vite. Hein? Il y a un culte de la vitesse là-dedans. Et une vitesse folle.
Oui, et toutes les technologies, en fait, sont en train de rendre les gens complètement fous. Hein? Avec tous les appareils portables, et je ne nie pas l'utilité de ces appareils-là, hein? Si on en fait un usage rationnel, il y a moyen de les utiliser. Mais prenons le simple courriel. Le courriel, là, il y a eu un effet pervers très important. Hein, vous qui avez été professeur, vous n'avez peut-être pas connu la vague, puisque vous êtes retraité depuis une dizaine d'années, vous n'avez peut-être pas connu la pire vague des messages de courriel reçus par les étudiants. Mais ce que ça a fait, ça a aboli la frontière entre le professionnel et le privé.
C'est ça. Hein,
parce que maintenant, les étudiants nous écrivent à 3h du matin, on reçoit ces messages-là à 6h quand on se lève, on rentre le soir, il est 9h, on vérifie, et il y a encore des messages. Ça n'arrête jamais. Nous n'avons plus de vie privée. La même chose est vraie dans le secteur public. Moi, je suis professeur, mais dans le secteur public, c'est la même chose. Dans le secteur privé, c'est la même chose aussi. Alors, ça abolit ces frontières-là. Le téléphone cellulaire qu'on dit « Soyez libre, ayez un téléphone cellulaire », je dis plutôt « Non, 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 soyez esclave avant un téléphone cellulaire ».
N'achetez pas de téléphone cellulaire si vous voulez rester libre.
Vous n'aurez plus une minute de paix si vous avez un téléphone cellulaire. Alors, c'est un peu ça que vous voulez dire, là.
Oui, c'est ça. Alors, écoutez, on va prendre un deuxième moment de repos avec mes aïeux. Continuez pareil. Alors, troisième partie de cet entretien de la période de Noël, je reçois aujourd'hui avec plaisir Monsieur Benoît Duguay et je l'ai invité parce que c'est la période de l'hyperconsommation, pour prendre les mots de Benoît Duguay, qui vient de publier aux éditions Libère « Consommation et nouvelles technologies » dont je vous recommande la lecture. Alors, Monsieur Duguay, troisième partie, on va revenir peut-être sur... on parlait de vitesse tout à l'heure en terminant la deuxième partie de cette entrevue. À la limite même, c'est l'immortalité. Il faut durer toujours, l'usure n'existe plus, il faut du neuf.
On finit
jamais.
Mais en fait, c'est plus grave que ça.
Allons-y.
En fait, c'est plus grave que ça parce que la technologie est liée à la science. Nous l'étions déjà au 20e siècle. Le 21e siècle, c'est encore plus. La science, on a construit autour de la science une aura de toute puissance. La science peut tout, donc les technologies peuvent tout.
Mmh.
Un jour, j'arrêterai de vieillir. Et même si c'est complètement absurde, dans l'inconscient... Peut-être même que je serai immortel.
C'est ça.
J'arrêterai le temps.
C'est ça, je serai Dieu moi-même.
Voilà. Et il y a un peu de ça dans les technologies, vous savez.
Oui, oui.
Et c'est faux. OK, on n'y arrivera pas. Il n'y a aucune technologie qui va arriver à ça.
Mm-hmm.
OK, ça n'a aucun sens. Mais c'est même pas conscient chez les gens, ça. OK. Par contre, les technologies ont également modifié un autre aspect du temps. On disait tantôt, ça va de plus en plus vite. Mais c'est que là aussi, il y a eu un autre effet pervers, l'effet pervers d'accélérer le désir. Maintenant, là, les gens désirent tout maintenant. Okay? C'est ce que j'ai appelé, moi, dans mes livres, l'immédiateté de la consommation.
C'est ça.
Les gens, auparavant, apprenaient, bon, j'aimerais avoir ceci... Je rêve de, et dans le rêve, il y a déjà beaucoup de plaisir.
Oui, bien sûr.
Ah, vous savez.
C'est pour ça que j'achète un billet de loto, moi. C'est juste pour rêver.
Ben, vous avez raison. Mais dans tout achat, il y a une partie de rêve.
Oui.
Alors, si on élimine le temps entre le rêve et la consommation, on se prive d'un grand plaisir.
Mm-hmm.
Parce qu'avant ça, d'attendre ce qu'on veut,
c'est ça.
C'était déjà jouissant. Hein? Mais maintenant, non, on veut quelque chose, allez hop, et ça c'est surtout présent chez les jeunes,
ouais.
Mais également dans d'autres groupes d'âge aussi,
oui,
on n'est pas immunisé là.
Mm-hmm.
Les jeunes, je veux ceci, je le veux maintenant.
Mm-hmm.
C'est pas parce que je suis étudiant que j'aurai pas une voiture, c'est pas parce que je suis étudiant que j'aurai pas une grosse télévision, c'est pas parce que je suis étudiant que je voyagerai pas.
Ouais.
Alors, et je le constate chez mes étudiants, moi.
Oui, oui, et surtout qu'il y a une banque qui va facilement me donner une carte gratuite avec 500 dollars dessus pour commencer.
Ah ben, et puis 500, c'est pas beaucoup.
Oui, oui.
Parce que vous savez, j'ai eu des gens, moi, un jour, j'ai été interviewé à Christiane Charette, et puis on parlait de justement de cet endettement-là, et j'ai eu une dame qui m'a communiqué, qui m'a trouvé par courriel, qui m'a écrit à l'université, qui m'a dit j'ai terminé mes études, je suis endetté de 100 000 dollars.
Ouf, ouf.
Pouvez-vous croire ça?
Oui.
Écoutez, comment voulez-vous démarrer dans la vie avec une dette de 100 000 dollars?
Quand on parlait de brûlure tout à l'heure, hein?
Ben oui, c'est elle ça. A été consommée.
C'est ça, okay. Absolument. Il y a donc un changement structurel qui est là, parce qu'on confond, j'allais dire, le plaisir et le bonheur, le désir. On veut tout de suite. Est-ce qu'on serait devenu des immatures, des espèces d'enfants gâtés qui cassent leurs jouets pour en avoir un autre tout neuf tout de suite?
Ben oui, je dis que chez certaines personnes, parce
ouais.
qu'écoutez, là, on généralise,
ouais,
si on, parle
ouais,
de,
ouais.
on parle des problèmes. Mais ces problèmes ne sont peut-être pas le fait d'une majorité.
Okay.
Les excès
bon.
En consommation, c'est le fait d'une minorité de personnes. C'est pas tout le monde, de toute façon, qui a les moyens hein, d'acheter tout ce dont il a envie. Et c'est pas tout le monde qui vont s'endetter à excès non plus.
Mm-hmm.
D'accord? Alors, donc, ce qu'on dit ce matin, c'est plutôt... Il y a certaines personnes qui manquent... Oui, vous avez dit un manque de maturité. Oui, je pense que c'est un manque de maturité.
Okay.
Effectivement, on manque de jugement. On ne réfléchit pas. Hein. Consommation réfléchie, c'est toujours ce que je répète. Alors, on ne réfléchit pas suffisamment aux conséquences de nos actes.
C'est ça. Alors, faudrait remonter à l'origine de tout ça. Tout à l'heure, on disait, même du temps des cavernes, il fallait échanger une peau de renne contre une peau de zébu ou je sais pas quoi. En tout cas, il fallait contre
voilà.
un outil. Il y a toujours eu des échanges et ça a toujours été nécessaire. Parce qu'il y a une, comme on dit, il y a une division, une répartition dans la société qui fait que nous avons besoin les uns des autres, tout simplement. Hein?
Ça, c'est tout à fait exact. On ne peut pas faire tout seul.
C'est ça. Sauf qu'avec le capitalisme, ça a changé un petit peu, dans la mesure où l'échange n'est plus... Pour être utile seulement, je te vends mon excès de bison et tu me vends, je sais pas moi, des légumes. En fait, c'est le capitalisme est devenu la marchandisation généralisée, c'est-à-dire
ouais.
c'est fait pour faire de l'argent de l'autre bord.
C'est que, voyez-vous, lorsque vous parliez des échanges, on était dans une forme de capitalisme qu'on peut appeler le capitalisme marchand.
Ok,
d'accord?
C'est ça.
Qui n'était pas vraiment néfaste, qui
non,
était
non.
quand même, qui avait sa raison d'être et qui était productif.
Oui,
okay?
Oui.
Bien sûr, le capitalisme a toujours eu pour base, il y a des gens qui vont être plus riches et d'autres qui vont être plus pauvres. Ben, à mon sens, en autant que les écarts sont pas dramatiques,
oui,
qui sont
oui.
pas scandaleux,
mm-hmm.
hein, c'est le mot scandaleux est bien ici, je pense qu'on peut tolérer des écarts. C'est, de vouloir tout le monde égalitaire, c'est un rêve inutile.
Oui, puis ce capitalisme-là a été un outil de développement formidable.
Nous ne connaîtrions pas les sociétés que
oui.
nous avons aujourd'hui s'ils n'avaient pas existé.
Tout à fait.
Là où le bas blesse, c'est que nous sommes maintenant passés dans un capitalisme de spéculation.
C'est ça, ça a dérapé quelque part.
Ça a dérapé salement,
uh-huh,
OK?
Uh-huh.
Et la spéculation, c'est vraiment l'élément le plus nuisible qui va consommer le capitalisme si on ne l'arrête pas.
Ah, ok, c'est ça.
Et je suis heureux de constater, ça, on le voit beaucoup en Europe, hein, la Commission européenne qui dit on va mettre fin à ce capitalisme de spéculation, on va retourner à un capitalisme d'entrepreneuriat pour développer de la richesse qui sera ensuite redistribuée. La spéculation, ça n'a aucun sens, c'est quelque chose de condamnable, et je suis extrêmement inquiet de voir la spéculation reprendre sur les marchés et de voir encore plus les économistes se réjouir du fait que les bourses ont remonté en 2009. C'est une catastrophe.
OK, c'est le train s'en va à une vitesse folle et va et il est au bord du ravin, quoi.
Ah ben oui, mais on a frappé un mur en 2008. Et on pensait, ah ben ça y est, on a appris un peu. Et moi, j'ai dit à l'époque, hein, parce qu'on m'a interviewé à quelques reprises, j'ai dit, est-ce que ça va changer quelque chose? Ben j'ai dit, ça va changer quelque chose si ça fait assez mal. Bon, ça n'a pas fait mal. Ça n'a pas fait mal, ou enfin pas assez.
OK.
Et alors là, ça a repris de plus belle. Regardez, j'en prends pour témoin, les banques ont déclaré leur profit pour 2009, là. Écoutez, c'est pas en prenant l'argent des épargnants puis en les mettant dans des véhicules très conservateurs qu'ils ont généré ces profits-là.
Non.
Quelque part, il y a eu de la spéculation, certainement.
C'est sûr.
Hein? Alors, donc, si la spéculation, à un moment donné, ça va nous refrapper en plein front.
OK, c'est encore l'excès, l'excitation, hein, toujours. Hein?
La convoitise.
C'est ça.
Vous savez, le désir d'avoir plus. L'investisseur, là, qui dit cette année, tu m'as donné 12% de profit. L'année prochaine, je t'en demande 15. Sinon, je vends tes parts. OK, je vends les actions de ton entreprise, ça va les faire descendre. Ben, ça, c'est de la spéculation. Mais où ça va s'arrêter? À 20, à 25, à 30? C'est pas illimité. On peut pas donner toujours plus de profit.
C'est ça.
OK? Mais je suis content de voir, par exemple, le président de Swatch, OK, qui a dit aux investisseurs, vendez mes actions si vous voulez, mais moi je vais pas faire des mises à pied pour éviter que mon action va descendre. Ça se passe pas comme ça chez nous.
Okay.
Et ça, j'applaudis d'entendre de hauts dirigeants d'entreprise adopter cette attitude-là.
Mais
c'est
là,
exactement ce qu'il faut faire.
Là, on touche un problème, je dirais, politique. C'est le mot qu'il faut donner, parce que vous parliez de l'Union européenne tout à l'heure. Même Monsieur Sarkozy s'est découvert des vertus de réglementation et de contrôle. Et il a dit lui-même, ce capitalisme-là, on n'en veut plus.
Oui.
Alors, je sais pas, c'est par démagogie ou calcul personnel, mais peu importe. Il y a, autrement dit, c'est le retour du politique. C'est ça que ça veut dire, parce qu'il y a que les politiciens qui peuvent véritablement commencer à contrôler, à freiner ce train
et à
décider de son orientation.
Oui, vous avez raison, parce que regardez, c'est au Royaume-Uni, hein, où on a dit... Vous voulez payer des bonus excessifs, payer des bonus de 10 millions à quelqu'un. Y a-tu quelqu'un sur la terre qui vaut 10 millions, surtout quand c'est fait juste parce qu'il a fait de la spéculation, là?
C'est ça.
Ben, ils ont dit, payez-leur les bonus si vous voulez, mais on va les imposer à je ne sais combien de pourcents. Ils vont remettre à l'État sur le bonus excessif qui a été payé.
C'est
ça, c'est excellent.
Okay. Il y avait une caricature dans la presse hier qui montrait la Citibank. On devine que c'est la Citibank. Et le président est en train de parler avec un de ses collaborateurs immédiats et qui lui pose la question de la dette qu'il a par rapport à Obama, au gouvernement d'Obama. Les 12 milliards. Alors, le PDG répond, ben écoute, j'avais deux solutions. Il fallait que ou bien je remboursais, ou bien je pouvais plus faire mon activité bancaire normale. Alors, j'ai dit à Obama, tiens, les voilà, tes 12 milliards.
T'es minable, 12 milliards. Voilà, parce que comparé à ce que je vais faire, je préfère te donner tes 12 milliards,
c'est
parce que moi, je vais en faire 40 en poursuivant mes activités.
Alors, derrière tout ça, je me dis, parce que en même temps, je voudrais que les gens soient optimistes, parce que même désespérément, si j'ose dire, il y a un retour, autrement dit, de la citoyenneté. Parce que derrière les politiciens qui finalement sont un peu perdus, hein, ils ont été eux-mêmes brûlés par des années de libéralisme exacerbé, alors ils se disent, faut peut-être faire quelque chose, mais on voit bien à Copenhague, il y a eu un show médiatique, tout le monde y a été de sa communication, comme on dit, puis ça a été le désastre qu'on sait, mais il y avait un sommet alternatif, mais les gens sont rentrés chez eux et les citoyens ont dit ça suffit, hein, on commence à être écœurés, là, il faut faire quelque chose, mais c'est peut-être pas des grosses machines comme Copenhague après Kyoto qu'il faut mettre en branle parce que ça rend la négociation impossible. Autrement dit, derrière tout cet aspect d'hyper-consommation, d'hyper-libéralisme, d'hyper-spéculation, avec tous les dégâts que ça fait, y compris compris, on parlait des dégâts psychologiques, mais aussi des dégâts environnementaux, bien sûr, pour l'avenir de la planète. Il y a une prise de conscience citoyenne. Est-ce que vous sentez ça, au-delà de la défense du consommateur classique?
Oh, écoutez, la prise de conscience citoyenne...
Est-ce que les gens réfléchissent plus avant de faire leur liste pour aller chez Jean Coutu?
Peut-être certaines personnes.
Oui.
Peut-être un tout petit peu, mais certainement pas sur une large échelle.
Autrement dit, il faudra développer encore l'éducation davantage. Ce serait ça la solution?
Et en fait, développer l'éducation... En fait, il faudrait que les gens s'arrêtent une minute. Moi, et je le dis dans mon bouquin, là. OK. On a dit tantôt, c'est au gouvernement. Hein, c'est les gouvernements qui ont les grands, qui ont les moyens de
les
légiférer.
Leviers nécessaires.
Et qui ont les leviers nécessaires. Sauf qu'il y a un autre important levier. Et ce levier-là, c'est chacun d'entre nous. Uh-huh. Hein, parce que, à la base, un investisseur, c'est une personne. C'est lui qui choisit, je place mon argent dans un véhicule spéculatif ou je le place dans une entreprise qui va faire travailler 10 000 personnes. Comme gestionnaire, je peux dire, ouais, on m'exige plus de profit, je fais des mises à pied. J'ai pas besoin des mises à pied, j'ai besoin de personne, je vais faire des mises à pied juste pour faire monter l'action de l'entreprise. Donc, comme gestionnaire, je suis un individu qui peut, et comme consommateur, je peux être également plus réfléchi ou non réfléchi. Donc, moi, je crois beaucoup dans l'individu. Et c'est à l'individu. On l'a vu, le président de Swatch qui dit, vous ne me ferez pas faire ce que je pense qui est mauvais pour l'entreprise, simplement pour une raison financière. Alors, c'est une prise de position individuelle. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin. OK? Que chaque individu prenne de lui-même des décisions dans tous les aspects de sa vie, que ce soit comme individu consommateur, individu gestionnaire, individu investisseur, que l'individu, OK, prenne ses responsabilités et adopte des valeurs plus fondamentales.
Alors, M. Duguay, avant de tirer la conclusion de cet entretien très intéressant, rien au monde, une petite promenade avec Paul Pichet. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous recevons Benoît Duguay, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, à l'École des sciences de la gestion, mais qui est un spécialiste de la consommation, du marketing, et qui vient de publier chez Liber, un bon éditeur, Consommation et nouvelles technologies, et nous consommons. Est-ce que nous consommons du Benoît Duguay? Non, nous ne consommons pas, là. Hein? Nous faisons réfléchir les consommateurs qui nous écoutent. C'est pas tout à fait la même chose.
Malheureusement, on ne peut rien acquérir en ce bas monde sans dépenser quelques sous.
Oui, oui.
Pas ni plus un livre que d'autres choses. Mais croyez-moi, ce n'est pas pour des raisons financières que je l'écris.
Oui, oui.
Parce que
non.
Les auteurs reçoivent très peu.
Vous avez fait votre pauvreté, là. Hein? Non, vous n'êtes pas payé autant qu'une femme de ménage, mais. J'ai envie de petites questions pour terminer. On parlait de se guérir, hein? On parlait de devenir plus mûr, etc.
Oui.
Est-ce que, et sans tomber dans le pathos sentimental du tout, c'est pas du tout mon objectif, est-ce que un des remèdes qu'on ne trouve jamais chez Jean Coutu, ça serait pas de donner? Juste de donner quelque chose, là. Hein? Donner un livre, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se le payer pour Noël. Laisser traîner un livre sur un banc public, puis il y a quelqu'un qui va le ramasser.
Chaque année, à l'époque de Noël, je suis tellement heureux que vous abordiez ce sujet-là, ça va en faire une très bonne conclusion, parce que chaque année, à l'époque de Noël, je fais des chroniques sur mon blog, parce que j'ai un blog sur les dons. Okay? Et chaque année, malheureusement, je constate qu'au sein du Canada, les Québécois font piètre figure. Alors oui, effectivement, l'anticonsommation, au lieu de penser à soi, penser aux autres. Parce qu'il y a tellement de misère humaine. C'est effrayant.
Il y en a
de plus en plus. Il y a de graves écarts. Hein? Je vous disais tantôt, l'égalité absolue, je n'y crois pas. Mais quand les écarts sont devenus scandaleux, ça n'a plus de sens. C'est ce qu'on constate dans notre monde actuel. Il y a des gens qui deviennent de plus en plus pauvres et des gens qui deviennent excessivement riches. Et même au centre, la classe moyenne n'est plus si moyenne que ça, elle est étranglée. Alors, vous savez, ça ne peut pas durer non plus.
Alors qu'il pourrait y avoir du pain pour tout le monde et peut-être même un peu de gâteau.
Il pourrait y en avoir pour tout le monde ici, il pourrait y en avoir pour tout le monde dans les pays, parce que la misère qu'on voit ici, ce n'est rien comparé à l'Afrique. Moi, ce que je soutiens toujours, tous les gens qui gagnent décemment leur vie, les gens de la classe moyenne, là, on peut, sans se priver, donner 1% de nos revenus. Se priver, c'est déductible d'impôts de toute façon.
C'est ça.
Si tout le monde donnait 1% de ses revenus et que les plus riches en donnent plus, le président Clinton a écrit dans un livre que lui, il donnait 10%. Mais il est tellement riche qu'il peut se permettre de donner 10%.
C'est ça.
Je rêve du jour où je pourrais donner 10% de mes revenus.
Ça. OK. Alors, donnez pour la période de Noël. Monsieur Duguay, un dernier mot. Vous préparez sûrement un nouveau livre, là.
Pour l'instant, non, j'ai pas de thème particulier. J'ai beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai pensé à consommation et santé, peut-être, qui serait un sujet intéressant parce qu'on a parlé d'éternité tantôt. Consommation et santé, c'est un sujet très chaud. Mais il pourrait y avoir autre chose. Il y a évidemment consommation et investissement, parce que la spéculation, ça m'horripile. Alors, je voudrais sans doute écrire quelque chose là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va sortir en premier, je ne sais pas encore.
Alors, on va vous suivre avec beaucoup d'attention, d'attente, comme vous dites. Je rappelle que je recevais aujourd'hui pour entretien Benoît Duguay, auteur d'un livre qui s'intitule « Consommation et nouvelles technologies ». Lisez ça, ça sera beaucoup mieux que d'acheter du chocolat qui va vous faire mal au foie. Et à bientôt pour un nouvel entretien. Merci beaucoup.
Ce fut un grand plaisir.
Au revoir.
C'était Jean Carrette qui s'entretenait ce matin avec Benoît Duguay, professeur spécialisé en consommation. Merci d'avoir été là pour cette édition de Regard de foin ce jeudi matin. Philippe Vaillancourt avec vous, microphone. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout d'abord, je remercie Daniel Fortin à la technique. Bonne journée à l'antenne de Radio Ville-Marie.